Radio Livre.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin, de 8h à 10h, 92.2 sur Canal Sud.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus encore une fois aussi nombreuses et nombreux aux présentations. Ça fait super plaisir. Ce soir, on accueille Emma Biget. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Vous venez présenter Mouvementement, sous-titré Éco-politique de la danse, est paru à la Découverte. Emma Biget, je pense que vous aurez l'occasion d'en reparler, mais vous êtes danseuse, commissaire d'exposition, épistémologue, entre autres choses. La rencontre de ce soir est animée par Saul Pandelakis. Bonsoir. Saul Pandelakis, vous avez pu le voir hier soir, d'ailleurs, pour présenter ses propres romans que vous pourrez trouver en bas et dont on pourra vous parler aussi. Merci beaucoup d'assurer la modération pour cette rencontre. Pour rappel, les rencontres sont non seulement amplifiées, mais enregistrées. Elles sont ensuite diffusées sur la radio associative Canal Sud. Si vous ne voulez pas être enregistré lorsque le micro circulera, vous n'avez qu'à ne pas parler dans le micro. Sinon, si vous posez des questions ou si vous, enfin voilà, si vous voulez que ça soit coupé au montage, vous pouvez nous le dire et on fera en sorte. Voilà. Merci beaucoup et bonne soirée.
Bonsoir à toutes et tous. Merci aussi à nouveau d'être là. Merci Emma. Et petit trigger warning, j'ai fait une séance d'acupuncture ce matin. Je suis complètement diffractée, je suis sur une autre planète. Donc si je ne fais pas toujours sens, c'est à cause de ça. Et en même temps, on se disait avant la rencontre que c'était bien dans le ton du livre. Voilà, donc sans plus attendre, j'essaye de te présenter et j'espère magnifiquement échouer, tu me corrigeras. Tu es autrice, Emma, traductrice, danseuse, même si tu dis plutôt que tu écris, tu traduis et tu danses, et que tu aussi enseignes. Tu as écrit un certain nombre de livres sur l'improvisation en danse, dont un livre avec un titre très joli, La perspective de la pomme. C'est exact, jusqu'ici. Tu es membre de la collective de rédaction de Multitude. Tu as également écrit une thèse en philosophie. Et tu es ou as été, je ne suis pas tout à fait au clair sur ce sujet, professeur d'épistémologie à l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Tu traduis des personnes incroyables comme Sarah Ahmed, Karen Barad, et tu nous en diras peut-être un mot. Tu dis aussi que tu es mammifère terrestre et apprenti licorne. Et je te laisse combler cette présentation, c'est creux, sans plus attendre.
Super, merci. Du coup, on va papoter pendant une heure et demie à peu près. Là, je vais répondre à cette question d'autoprésentation et puis probablement soliloquer un peu pendant un quart d'heure, 20 minutes, et puis après on aura un échange. C'est pas parce qu'on a les micros et qu'on parle qu'on est obligé d'être l'objet d'attention unique. Si vous voulez regarder ailleurs, ou fermer les yeux, ou faire autre chose, comme penser à votre liste de courses, c'est OK. Au cas où, je nous ai mis une partenaire plante au-dessus. Elle est un peu décatie, ce qui est super comme partenaire à avoir. Vous pouvez toujours la regarder plutôt que de me regarder dans les yeux. Voilà, certaines personnes, ça les aide de regarder la bouche qui remue. D'autres, ça les empêche. Donc, faites ce qui vous arrange. Il y a aussi la possibilité de se mettre par terre, comme certaines d'entre nous l'ont déjà fait. Voilà, n'hésitez pas à le faire et à changer d'avis en cours de route. Voilà, là vous êtes très bien sur vos chaises, ça va changer. Donc voilà, jetez les chaises autant que vous... Les chaises sont des dispositifs technologiques attentionnels très très puissants qui se sont popularisés au 19e siècle au moment où on avait besoin d'entraîner les écoliers à devenir des travailleuses à la chaîne. Et sont une sorte de popularisation du trône sur lequel le monarque est assis. Donc voilà, chacune est devenue sa petite monarque à elle-même, évitant donc de déborder sur les autres. C'est parfois une bonne technologie que de s'en débarrasser, de se munir de bancs ou du plancher. Voilà, n'hésitez pas donc à varier les positions d'écoute. Alors oui, pardon, mammifère terrestre, et bah là, voilà, je suis par terre. Maintenant, je dis parfois créature terrestre. Il se trouve que mammifère, enfin, c'est quel mot que j'aime beaucoup, c'est un mot qui est chargé de signification parce qu'il est inventé par Carl von Linné, qui est un type qui a, vous voyez, qui a rangé un peu tout. C'est le type qui a fait les arbres phylogénétiques qui expliquent les différentes espèces et qui met tout en latin. Et au moment où il se demande à quelle classe on appartient, il est en même temps très partisan de l'allaitement par les mères. Et du coup, il se dit, ah ben, il n'y a qu'à appeler la classe à laquelle on appartient mammifère, hein, qui donne la mamelle, ça naturalisera le geste d'allaiter. Voilà, je dis ça parce que même quand on a les apparaîtres de la biologie et de la naturalité, il y a toujours du politique qui s'en mêle. Donc voilà, dire mammifère terrestre, c'est un peu chargé de signification. Par conséquent, j'ai plutôt tendance à préférer créature, qui est un mot aussi magnifiquement chargé. Pardon, je vais m'interrompre en permanence, donc voilà, accrochez-vous. créature, qui est un mot... J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, donc je suis tout excité, je passe mon temps à le partager, ça fait... 8 mois que je le répète à toutes les occasions. Bref. En français, il y a 2 types de participes. Accrochez-vous, retour au quatrième. À la quatrième. Il y a 2 types de participes, les participes présents et les participes passés. Oui. Alors, tu dis créer, c'est les participes passés. Oui. C'est eux qui ont été créés, c'est eux qui ont fait l'objet d'une création, qui sont au bout de la création. Créant, c'est eux qui sont en train de créer, le participe présent. Oui. Il se trouve qu'en latin, il y a un 3e type de participe qu'on n'a pas en français et qui est le participe futur. Creatura, c'est eux qui restent à être créés. C'est eux qui sont à créer. Qui n'a pas envie d'être une créature parmi nous, hein? Qui n'a pas envie d'être encore à être créé plutôt que d'être déjà créé et fini. Voilà. Bref, donc créature terrestre indique un peu ce projet général de se réclamer ou de se rappeler qu'il y a encore des bouts de nous qui restent à être créés. Et il y a des bouts de nous en particulier qui restent à être créés, à savoir notre appartenance à la Terre. Oui. C'est pas parce que nous sommes une espèce qui... à des ancestralités d'habitat terrestres depuis des siècles et des siècles et des millénaires que nous n'avons pas toujours encore à apprendre à l'habiter, cette terre. Donc voilà, créatures terrestres, c'est eux qui ont encore un petit peu du travail pour savoir comment l'habiter. Ouais. Bon, autodéfinition. Des fois, je dis que je suis une apprentie licorne, ce qui est aussi utile. Mais ça, c'est pour. Mais généralement, j'amène une petite licorne Playmobil pour le dire. Et malheureusement, j'ai oublié ma licorne Playmobil. mais je peux quand même raconter l'histoire. Putain, alors là, on s'entasse, les amis. Est-ce que je peux parler plus près du micro? Ça va? Est-ce que l'entassement est OK? Profitez-en, on n'a pas tellement l'occasion de le faire de manière stable. Il n'y a guère que dans les métros que ça peut marcher. Je dis souvent que je suis apprenti licorne parce que, vous voyez, la licorne est un animal mythologique qui est un peu multimillénaire, mais qui a pour une de ses origines, c'est la narvale. C'est une mammifère marine qui vit au pôle, hein, qui vit sous les glaces et qui est munie d'une énorme dent, ouais, qui forme une espèce de corne. Elle est torsadée, et cette dent énorme, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, elle n'a pas du tout pour vocation à venir percer les glaces des pôles, elle a pour vocation à servir de sonar. La fonction de la dent de la narvale, c'est augmenter sa capacité d'écoute. Alors je dis je suis apprenti licorne parce que je me sens très apprenti narval. Comme elle, je me demande est-ce que je pourrais pas transformer ce qui me sert de dispositif d'attaque ou de défense, les dents, en une manière d'apprendre un peu mieux à écouter les autres. Voilà, la narval. Bref. Ok. Fini l'autoprésentation. Je suis aussi, j'ai reçu plein de noms dans ma vie, hein, aussi garçon, fille, cis, trans, PD, lesbienne, blanche, européenne, enfin tout ça. C'est des noms importants qui permettent de situer en partie là d'où je parle, mais en termes d'identification, je préfère mammifère terrestre et apprenti licorne. Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait bien raconter ? Il y a une phrase que j'aime répéter en début de papote. C'est une phrase de deux philosophes spécialistes des études noires. C'est Fred Moten et Stefano Harney. Et cette phrase, c'est « Et si l'étude, c'était tout ce qui se passe avant que la classe commence ?» Et si l'étude, c'était tout ce qui se passe avant que la classe commence ? Et si l'étude, c'était l'ensemble des activités, des choses qui sont actives en chacune de nous, avant que la conférencière, la professeure, la performeuse disent « ça y est, ça commence, on va se concentrer sur la chose qui compte ». Et si l'étude, c'était l'ensemble des activités qui vous ont mené jusqu'ici, qui vous occupent encore l'esprit maintenant, et qui, sous prétexte que je suis la seule à parler, n'ont pas disparu, mais sont encore actives. Oui. Ils disent cela, Fred Moten et Stefano Harney, avec l'idée que leur tâche en tant que professeur, c'est de ne pas ruiner l'étude, oui. De ne pas gâcher cette activité permanente d'attention à des mouvements qui sont en nous, pas forcément volontaires, qui se produisent en nous, sans nous. Oui, qui sont actifs là, maintenant. Donc, pardon de ruiner votre étude. et je nous propose d'être active en relation avec une étude en particulier qui est un peu l'objet de ce livre qu'on présente ce soir, qui est l'étude de la gravité, l'étude de, du fait là que, bien qu'il n'y paraisse pas tellement, nous sommes toutes en train de tomber. Oui, alors ça n'y paraît pas parce qu'il se trouve qu'il y a des chaises ou un sol qui nous en retient. Mais là, maintenant, et pas seulement plus tard, nous sommes attirés par la Terre, collés à elle, oui, et en même temps soutenus par son généreux support, constamment présent. Oui, ce phénomène-là, nous sommes en train de tomber. On peut dire qu'il y a une grande quantité de danses qui se sont évertuées à le faire monter à la surface de l'expérience, soit de l'expérience des personnes qui regardent, soit de l'expérience des personnes qui bougent. Ouais. Je propose dans le bouquin-là d'appeler ces danses des danses compost-humanistes. Alors c'est un mot, c'est un jeu de mots qui n'est pas à moi, qui est un jeu de mots de la philosophe Donna Haraway, désigne une approche qui se propose de dépasser la centration de nos récits autour de l'humain. Oui, qu'on post-humaniste, oui, finit avec la centration des humanités autour des seules vies héroïques des êtres humains, et si nous faisions la place à d'autres créatures. Mais, précise Haraway, pas sous la forme post-humaniste d'un dépassement de l'humain qui irait vers, je ne sais pas, quelque chose comme un surhomme cyborg détaché de toute relation au terrestre, oui, pas sous la forme d'une élimination des miasmes et des vies qui nous entourent, mais au contraire, sous la forme d'un empirement, oui, d'une exagération de notre caractéristique terrestre, donc compost-humaniste et pas juste humaniste, parce que une manière d'insister sur le compost que nous sommes. Oui. Là, maintenant, et pas seulement plus tard, nous sommes le site pour le fleurissement de mouvements autres que les nôtres. Mouvements des bactéries dans nos tubes digestifs et aux commissures de nos yeux et de nos pieds, ce qui explique leur odeur parente du fromage, qui a les mêmes bactéries. Mais aussi mouvements des autres créatures, notamment végétales, qui pendent dans nos vies. Être du compost, c'est littéralement ce que signifie le mot « humain ». Il se trouve que, et c'est pour ce sur quoi Haraway s'appuie le plus, il se trouve que « humain », avant de signaler l'espèce séparée des autres, signale celles qui appartiennent à l'humus. C'est les mêmes mots, humain, humus. Celles qui appartiennent à la terre, au terrestre, oui, au terrien. Donc, compost humanisé, la danse, ou les danses compost humanistes, c'est ces techniques qui s'efforcent de faire remonter à la conscience et dans la sensation les composts que donc nous sommes, les mouvements qui nous traversent, qui sont en nous et sans nous. Ce que j'appelle des mouvementements, mais enfin, on s'en fout. Et du coup, je me disais en termes de... Parce que là, j'ai bientôt arrivé au bout des 20 minutes promises de soliloque. Je me disais qu'on pourrait peut-être avoir une pratique ensemble de cet apprêtement au senti de la gravité en nous. Ouais. Et alors, tout le monde panique, merde, j'étais venu pour écouter, rien branler. Rassurez-vous, ça ne va pas demander tellement d'efforts. Simplement, pour celles qui le peuvent ou qui le veulent, je vous invite à soit vous mettre debout, soit vous redresser simplement sur votre chaise. Oui. Donc, pour celles qui le veulent ou qui le peuvent, se mettre debout ou se redresser la colonne sur les ischions, de telle sorte à ne pas trop avoir d'appui sur lequel se reposer. Ça peut être aussi simplement le senti de la tête sur l'atlas. L'idée est de sentir comment, dans l'alignement de la verticalité, trouver du repos. Alors, une proposition d'avoir soit les deux pieds dans la largeur du bassin, soit la tête simplement relevée. Et dans cette position, relâchez les mains de chaque côté. Il reste ballant, pas besoin de vous tenir. Et dans cette position, simplement se poser une question. Qu'est-ce que je pourrais moins faire ? Et observer la réponse. Peut-être l'anus se desserre légèrement. Il est généralement inutilement contracté. Peut-être vous sentez vos genoux se déverrouiller. Votre mâchoire s'ouvrir légèrement. Le poids de la langue dans la bouche. Deux forces simultanées. La force ascensionnelle des os qui vous maintiennent élevés dans l'espace et la force descensionnelle de la peau et des muscles qui peuvent se relâcher. Dans la direction dans laquelle votre crâne s'élève, sans changer cette direction, je vous invite à faire le plus petit mouvement d'extension possible. Le haut du crâne vers le ciel, dans la direction dans laquelle votre crâne s'élève, sans changer cette direction, faire le plus petit mouvement d'extension possible. Est-ce que ça pourrait être plus petit ? Relâchez-le dans la direction dans laquelle vos doigts pendent. Sans changer cette direction, faire le plus petit mouvement d'extension possible. Est-ce que ça pourrait être plus petit ? Relâchez-le. Et peut-être que vous le percevez déjà. En tout cas, pas besoin de le faire. Une petite danse, un petit mouvement de giration vous conduit d'un pied sur l'autre ou d'avant en arrière. C'est très léger. Votre masse, en dialogue avec la gravité. Vous nagez dans la gravité depuis le jour de votre naissance. On l'oublie facilement. Notre masse et la masse de la Terre s'appellent l'une l'autre. Et dans cette position, une proposition d'imagination. Imaginez, mais ne le faites pas, que vous vous apprêtez à faire un pas en avant avec la jambe droite. Imaginez, mais ne le faites pas, que vous vous apprêtez à faire un pas en avant avec la jambe droite. Puis la gauche, la droite, la gauche. Les deux en même temps. Revenez à zéro. La petite danse de votre masse avec la gravité. Et puis, une dernière inspiration ensemble. Et à l'expire, les yeux qui se réouvrent. Bonjour, créature terrestre. Et vous pouvez trouver la position qui vous va. Alors, je dis juste un mot de ce qu'on vient de faire, et puis après, on peut commencer à papoter. Si j'ai pas complètement hypnotisé Saul après les séances d'acupuncture. La pratique que nous venons de traverser s'appelle la petite danse. C'est une pratique qui a été développée par le chorégraphe nord-américain Steve Paxton en 67 et qui participe à l'entraînement des danseuses en contact improvisation. Une forme de danse qui consiste à sauter sur des gens et à étudier les conséquences de cette décision et en particulier à étudier les dynamiques de la chute et de la survie à la chute. La petite danse fait partie intégrante de cette pratique parce qu'il s'agit d'abord de calmer l'esprit à l'idée de tomber. Calmer l'esprit à l'idée de tomber, c'est-à-dire s'accoutumer à l'idée que nous sommes déjà en train de tomber. Oui. Donc quand on sautera dans les airs, ça ne sera pas tellement pire. Oui. Mais aussi, c'est un entraînement au contact improvisation, parce que dans le contact, non seulement on saute dans les airs et on saute les unes sur les autres, mais parfois on reste en contact. Et l'idée dans cette pratique est notamment de se relier à l'autre, non pas en fonction des attributs sexo-ratio-genrés, mais en fonction des attributs de masse. Et si, au lieu de voir en toi une personne avec la morale d'état civil que ta carte d'identité porte avec elle, je voyais un truc qui pèse, une créature qui tombe, oui, quelque chose qui se tient en deçà de ce que l'état civil est capable de dire de toi. Ouais. Je pourrais appeler ça un regard transgenre, en ce sens que j'essaye de ne pas voir de toi autre chose que ce que tu pèses. Ouais. Alors bien sûr, j'échoue. Ouais. Je veux dire que, bien sûr, toutes les chorégraphies de mon regard insistent pour que je vienne te recapturer dans tout ce que le capitalisme m'a habitué à dire de toi. Mais voilà l'effort que j'essaye de me donner à faire et si je voyais en toi une chose qui pèse et te rencontrer et faire en sorte que notre rencontre soit celle entre deux masses plutôt qu'entre deux personnes déjà constituées, deux humaines déjà séparées. Voilà le programme. On va peut-être essayer de le tenir un peu encore. Mais je me tais, je finis mon soliloque. N'hésitez pas à réorganiser vos masses au besoin. On peut peut-être s'allonger s'il y a de la place. Voilà. Et je te laisse papoter.
Ouais. Alors j'ai une remarque déjà sur ce que m'a évoqué moi l'exercice. Peut-être que ça. Enfin l'exercice, tu vois. Un choix de mots intéressant. Mais non, c'était pas un exercice. L'expérience. Moi, ça m'a évoqué ma podologue qui a un dispositif super intéressant. Peut-être que vos podologues à vous ont ça. C'est une plateforme qui retrace tes mouvements. Mm-hmm. Quand tu es debout et que tu ne bouges pas, entre guillemets, mais comme tu l'expliques très bien dans ton livre, on bouge tout le temps. Et ça crée, alors ce qu'on a fait là, où on se sent bouger sur son axe de manière très infime, ça crée un graphe de ça. Alors évidemment, c'est fait pour des raisons thérapeutiques, mais du coup, pendant qu'on faisait la pratique, je me suis dit, tiens, est-ce que Emma connaît ça, la petite plateforme qui mesure et est-ce que tu trouves ça désespérant parce que ça vient rationaliser un truc qui n'a rien à faire dans la machine et dans les chiffres? Ou est-ce que tu trouves ça créatif? Voilà, ça c'est un truc qui m'est venu. Et après, j'ai une vraie question.
À côté du mot créature, que j'ai nommé comme un des mots qui existent au participe futur, y en a plusieurs en français qui restent. Par exemple, nature. Nature, c'est aussi un participe futur. Pas les choses qui sont nées, c'est le verbe naître, mais l'ensemble des choses qui restent à naître. Un peu plus sexy à défendre. Nous sommes la nature qui se défend. Nous sommes l'ensemble des choses qui restent à naître, qui nous défendons. Bref, pardon, c'est une parenthèse. Un troisième mot qui fonctionne exactement de la même manière, c'est posture. C'est pour ça que j'y pense. Posture, c'est le participe futur du verbe ponere, qui veut dire poser. Posture, la posture qui est à la fois un mot qui signale la manière dont tu te tiens, mais aussi la manière dont tu te représentes le monde, dont tu t'apprêtes à agir sur le monde, indique le poids qui s'apprête à être posé. Ouais. Ce que la machine du podologue vient mesurer, c'est exact, et du coup, d'une manière très similaire, la petite danse d'une manière expérientielle, ce qu'elle vient mesurer, c'est ta posture, hein, ta disposition envers le monde, comment tu t'apprêtes à poser ton poids. Oui. Et c'est ça le petit jeu, hein, d'imaginer d'aller faire un pas avec la jambe droite, avec la jambe gauche, hein, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont peut-être senti, il y a un petit décalement du poids qui commence à se faire intérieurement. Et qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, c'est l'anticipation, n'est-ce pas, du pas que tu t'apprêtes à faire et le fait que tu mets ton poids d'un côté pour te servir d'ancrage pour faire l'autre pas. Oui. Ça a des valeurs, on pourrait dire. Cette posture, cette manière de gérer le poids, cette manière de gérer le poids qui s'apprête à être donné, elle est le résultat de tout un ensemble d'actes qui sont venus se déposer sur ton corps dans ton histoire. Oui, l'ensemble des regards favorables ou défavorables qui se sont posés sur toi, qui te disent « non, tu ne peux pas faire ça ». Oui. Les sujets féminisés, les sujets queer sont assez bien au courant de ce genre de regard interdisant qui porte sur le déploiement du corps. Ouais. Tout ça vient nourrir le sens de où est-ce que je vais pouvoir poser mon poids et bien sûr vient nourrir l'endroit dont on peut depuis lequel on peut regarder le monde. Donc il y a un enjeu. Ce que le podologue vient travailler, c'est hyper fort. Le problème, alors pour répondre à ta question, c'est qu'il individualise cette expérience. Hein, il fait comme si c'était toi qui était cette signature, etc. En fait, cette signature, elle a des enjeux politiques. Oui. Ta posture, la manière dont tu te tiens, elle retient tout un ensemble d'actes qui sont déposés sur toi, pas seulement pour des raisons individuelles, personnelles, etc., mais aussi pour des raisons politico-sociales. Et donc, il y a des enjeux de bifurcation importants a produit à travailler sur la posture. Voilà, bon, c'est ce que ça m'inspire, ton histoire de podologue. On a besoin de podologues politiques, pour le dire autrement. Oui ? Vous voyez ce que je veux dire ? Et si, quand tu vas voir ton podologue, il disait « Non, mais là, ce qu'il te faut, c'est lutter contre le sexisme. Là, il faut que tu ailles à la manif, tu vois ?» Clairement, on le voit au graphe.
J'aurais dû inviter ma podologue. Non, alors, une vraie question, du coup, à présent. Alors, bon, déjà, j'ai adoré ton livre, évidemment. Ce qui m'intéresse beaucoup, alors, c'est un livre qui dit des choses, comme plein de livres, et, enfin, qui théorise, j'imagine, mais ce que j'aime bien, et ça, c'est assez rare, le livre finit par nous faire ce qu'il décrit ou ce qu'il dit. Voilà. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça devient en acte. À tel point que dans la semaine, j'étais en train de cuisiner, je me dis « Waouh, je danse, là, je suis en train de faire des trucs. » Voilà, bon, ça a modifié mon expérience visiblement. Voilà. Mais ça m'amène à ma question, qui est que tu décris donc dans ton livre, enfin, où tu nous urges dans ton livre à investir d'autres sensorialités, des micro-gestes, essayer d'explorer un petit peu comme on vient de le faire, ce qui se passe dans le corps. Mais tu parles aussi de l'hétéropatriarcat, de la domination blanche et du capitalisme tout court, qui a tendance à tout capturer. Voilà, tu le dis à un moment et ça m'a pas mal marqué. Et je me suis dit, bah oui, mais alors justement, ces pratiques comme on vient de les faire, c'est typiquement des choses en ce moment... ces pratiques presque somatiques, peut-être qu'on peut les ranger dans cette catégorie, elles sont particulièrement capturées par le capitalisme qui bouffe tout de toute manière et qui fera feu de tout bois. Alors du coup, ma question, c'est ces très belles pratiques-là, comment on fait pour qu'elles ne soient pas récupérées ou qu'est-ce que tu vois, toi ? Enfin, ma question n'est pas prête, quoi. Elle n'est pas cuite, mais tu vois. Voilà. Comment on s'assure que ces mouvementements qu'on met en œuvre, ils ne vont pas, une fois de plus, être récupérés. Ou s'ils le sont, quoi faire ?
Alors, je pense qu'on ne peut pas ne faire en sorte qu'ils ne soient pas récupérés, déjà, soyons clairs. L'objet de la lutte est plutôt les employer à des fins libératoires. Je pense que ce que tu pointes, par exemple, a beaucoup été pointé à propos du yoga, parce que maintenant, il y a des histoires de plus en plus... compliqué, complexe de cette pratique somatique par exemple le livre de Zineb Yoga Nouvel Esprit du Capitalisme, merci, qui montre comment le yoga, et c'est déjà le travail de Mark Singleton avant, comment le yoga en réalité est une formation, une manière pour les Britanniques d'imposer la gym suédoise au subcontinent indien. Et quelle est la stratégie pour imposer cette gym suédoise ? Hein, si vous faites le chien à l'envers ou je sais pas quoi, c'est pas des trucs que vous trouvez dans les yoga sutras. Hein. C'est des techniques qui viennent d'Europe du Nord, qui font partie de la politique hygiéniste du 19e siècle de l'Empire britannique et qui trouvent à se reformuler à travers une exotisation des pratiques locales dans le subcontinent indien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver trop étonnant de voir le yoga viraliser les sphères du capitalisme mondial intégré contemporain. Hein. En fait, c'est un juste retour de la même pratique sous la forme exotisée et sexy de l'idée que tu vas faire un truc qui vient d'ailleurs. Le yoga a des pratiques, le yoga, je veux dire, des yoga sutras a des pratiques posturales, mais les postures, c'est debout, assis, couché, quoi. Enfin, c'est vraiment des choses très, très simples. Il y a beaucoup de travail de la respiration, etc. Du coup, la question... Alors, ces questions se posent de manière très centrale à propos des pratiques somatiques en raison de cette prédation coloniale et hygiéniste qui date au moins du 19e siècle, puisque c'est le grand projet de « on va soigner les populations hein. ». Le travail de l'État, c'est pas juste dire « bon, alors ceux-là, on les zigouille, ceux-là, on les zigouille pas ». C'est on va faire en sorte que vous croissiez et multipliez, hein, que vous deveniez des êtres en bonne santé. Alors là-dedans, comment on échappe à cette logique-là ? Je pense que la première réponse à ça, on vient un peu de l'évoquer avec l'histoire du podologue, c'est pas croire que c'est des trucs qui t'arrivent à toi toute seule et que c'est des trucs qui concernent ton individualité séparée. Que le yoga, c'est un truc que tu pourrais faire toute seule dans ton coin, en te réveillant le matin, mais que ça n'a pas d'implication collective, etc. Ces pratiques, elles ont pour vocation à déborder, enfin, foutre la main, enfin, je sais pas comment dire, à circuler dans d'autres corps. Et moi, pour moi, le sens des somatiques, il est plutôt à trouver dans des textes comme ceux de Fanon, qui a des analyses somatiques d'une très très haute précision, qui utilise le terme de somatique par ailleurs pour décrire, à la fin notamment des damnés de la Terre, l'état des corps colonisés. Hein, je ne sais pas si vous voyez, dans les damnés de la Terre, qui est donc ce texte révolutionnaire de 1961, qui fait une sorte de lecture de la situation pendant la guerre d'Algérie, et qui fait aussi une psychanalyse ou une psychiatrie des corps colonisés. Et Fanon regarde notamment, alors il a un truc qui l'intéresse particulièrement, c'est la manière dont les tensions, les corps deviennent extrêmement tendus en régime colonial. C'est-à-dire comment les muscles se tétanisent au point de créer ce que les médecins coloniaux appellent des contractures congénitales. Alors évidemment, les médecins coloniaux disent « Ah bah oui, c'est les Algériens, vous voyez bien, c'est leur manière de vieillir, quoi. Ils deviennent tout raides. » Fanon arrive et dit « Mais non, mais en fait, c'est pas leur manière de vieillir, ils deviennent pas tout raides, c'est pas un truc congénital, c'est un effet des mouvements de révolte constamment comprimés. » Oui, la contracture, c'est la révolte qui n'a pas eu l'occasion de se déclencher. Ouais. Et c'est exactement ce que veut dire Fanon, c'est-à-dire faites gaffe alors, qu'est-ce qui se passerait si nous donnions à cette contracture l'occasion de se libérer, hein, de se déclencher. Et c'est ça qu'il appelle, et qui a été probablement assez mal compris, la violence révolutionnaire. La violence révolutionnaire, c'est pas on va péter la gueule à tout le monde, enfin, il y a un aspect de ça, mais c'est d'abord, on va percer la carapace des mouvements empêchés. On va faire en sorte que ces mouvements empêchés puissent circuler et s'allier à d'autres. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'entrer dans des mouvements émeutiers, ouais, pour Fanon, parce que ces mouvements émeutiers vont être la condition de prise de conscience de cette contracture musculaire imposé par les mouvements comprimés. Ouais. Donc moi je dirais, c'est l'endroit où les somatiques réindividualisent ton problème et te disent « Non mais attends, on va te soigner à l'endroit là », toi ta réponse peut être « Non mais c'est collectivement que nous sommes contractés là ». Et c'est donc collectivement qu'il y a une chance que nous pouvons nous libérer de ces contractures. Une des grandes influences des études en danse en France, c'est un type qui s'appelle Hubert Godard et qui a notamment travaillé, enfin développé sa théorie à partir d'un travail avec des femmes qui venaient de subir une mammectomie suite à un cancer du sein. C'est un détour, mais rassurez-vous, ça va avoir du sens. Le problème de ces femmes qui avaient subi une mammectomie, c'est qu'elles se retrouvaient, parce que souvent c'était un seul des deux seins qui était concerné, elles se retrouvaient à avoir une scoliose. Oui. Hypothèse des médecins première, y a un poids qui pèse d'un côté, du coup voilà, ça ne marche pas, parce que même quand on rajoute une prothèse, ça ne fait pas le travail, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va les redresser, hein, on leur fait des, je sais pas, on leur met différentes formes de prothèses correctives, on essaye de faire des massages, des soins, etc. 3 mois plus tard, paf, la scoliose revient. Donc, on n'avance pas. Hypothèse de Godard, il dit, le problème, c'est que la scoliose, elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'espace. La scoliose de la personne, elle est liée à un affect qui est venu oblitérer son sens de la partie qui a été coupée. Oui. Comme il y a comme une blessure dans l'espace, dans tout cet espace droit qui vient d'être coupé, et si tu ne soignes pas le sens de l'espace à droite, là, où il y a eu cette coupe, eh bien, t'es foutu, tu vas toujours avoir le retour de la scoliose. Pourquoi je raconte ça ? Oui, ça va, la scoliose, elle est dans l'espace, ça va, c'est clair comme un truc. Pourquoi je raconte ça ? C'est pareil, tes contractures de la posture, elles ne sont pas seulement dans ton corps individuel, etc. Elles sont dans les chorégraphies qui sont contenues dans les objets qui nous entourent. Oui. elle est dans la manière dont, je sais pas, il y a des genres sur les toilettes qui te rappellent à ton, qui te redisent en permanence à quelle catégorie t'es censé appartenir avant d'entrer dans les toilettes. Elle est contenue dans les architectures dont on parlait à l'instant de la ville, qui empêche de pouvoir s'allonger sur aucun des bancs qui sont proposés par la magnifique ville de Toulouse, sous la forme de ces chaises un peu dégueulasses, anti-SDF, anti... Oui. Donc, par les architectures qui te disent « tu n'as pas le droit de te reposer ». Tu te trimbales dans ta ville et tu n'as aucun lieu qui te dit « c'est OK d'être un peu inefficace là maintenant ». Oui. Donc, tout ça... participe, hein, à ton sens de ta propre posture. La scoliose, elle est dans l'espace. Elle n'est pas juste en toi.
Alors, je pense à autre chose en même temps que je t'écoute parler. Quand on rentre dans le livre, en tout cas moi, en rentrant dans le livre, je me suis dit, alors du coup, on va remettre le corps au centre, etc. Alors, j'ai bien aimé parce que tu nous décales complètement. Je trouve que tu nous décales, après tu me diras, dans le sens où toi tu prends un peu le corps à revers en disant c'est pas le bon concept, si je t'ai bien lu, c'est un concept écran. J'aurais bien aimé que tu nous parles de ça, parce que pendant longtemps, alors, y compris moi dans ma formation, peut-être dans la vôtre, le corps était un peu absent, quoi. Voilà, on est là pour réfléchir, on parle pas, je sais pas moi, d'avoir mal au ventre, de ses règles, de son endométriose ou autre, le corps n'est pas là. Après, il y a un peu l'autre pan de le corps est là, mais avec le risque de récupération néolibérale de... je ne sais plus quelle est la phrase, écoute ton corps, voilà, ce truc, là, cette injonction qui est quasiment aussi terrible que d'oublier son corps. Et là, tu nous proposes une autre voie.
Oui, je sais pas, c'est un truc qui est déjà dit depuis très longtemps et qui est en fait assez fondateur dans les études en danse, c'est-à-dire, non, mais il faut qu'on arrête avec le corps, là, parce que à chaque fois qu'on dit ce mot, on s'empêche de penser les réalités infra- et supracorporelles qui se cachent derrière le mot-là. Le mot « corps », son problème, c'est qu'il traîne des casseroles tellement massives avec lui qu'elles nous empêchent de penser ce qu'il contient. Ces casseroles, c'est la dualité corps-esprit. C'est-à-dire, c'est foutu. C'est-à-dire, si tu dis « corps », tu peux ajouter tous les adjectifs que tu veux. Tu peux dire corps senti, corps vécu, corps perceptif, corps profond, je sais pas quoi. Dès que tu dis le mot là, c'est comme une formule magique. Tu es obligé de traîner avec toi l'idée que c'est pas l'esprit. Ouais. Et ça, c'est le problème. C'est un problème, on pourrait dire, de théoricienne. Merde, comment on s'en sort, etc. C'est aussi un problème dans les pièges que ça pose pour notre esprit. Hein, on est comme coincé par cela. La stratégie que j'ai suivie dans la thèse à laquelle tu as fait allusion, ça a été, j'essaye de ne jamais utiliser le mot là. Voilà, j'écris une thèse sur la danse, j'utiliserai jamais le mot corps. C'est une stratégie, après je me suis avisé qu'en fait c'était une stratégie qu'avaient mise en place les écoféministes, en disant je vais jamais utiliser le mot nature. Parce que la nature, bonne chance pour la trouver. Même quand tu dis « je vais me balader dans la nature », en fait, tu ne vas pas te balader. Enfin, déjà, voilà, bienvenue, déjà, vous êtes en train de vous balader dans la nature. Et ensuite, tu vas d'abord te balader dans cette forêt, auprès de cette rivière. Oui, il n'y a pas cette généralité-là que la nature te propose. Bon, alors, et si on faisait de la même chose avec le corps, en disant « mais en fait, il n'y a jamais le corps. Ce qu'il y a, c'est des mouvements, des règles, des douleurs, des maux de tête, des joies, des jouissances, des amours, oui, des gestes, des potentiels, des mouvementements, etc. » Donc, un peu comme un jeu, et en général, hein, c'est une bonne méthode, dès que tu sens que tu commences à répéter tout le temps le même mot, élimine-le. Voilà. Non pas parce qu'il faudrait se censurer de le dire, mais pour voir ce qui surgit à la place. Oui, voir ce que ce mot-là vient te cacher de modalités d'accès. Ouais. Et alors, ce truc-là, c'est un vieux truc des études en danse, à dire vrai. On pourrait dire, les études en danse sont fondées sur le fait qu'on refuse de dire mot corps pour voir ce qui se passe à côté. Ouais. Un vieux texte de Michel Bernard, qui est un type qui a fondé les études en danse en France, dit cela, la danse anticorps. C'est à peu près le seul truc bien dans ce texte. Mais... Erin Manning, qui est une philosophe canadienne, a cette idée un peu différente. Elle propose de, à chaque fois, au lieu de dire corps, elle dit corps en train de se faire. Alors, c'est un truc. Alors, en anglais, ça marche beaucoup mieux. Elle écrit bodying, ouais, avec ing. Elle ajoute un gérondisme. Alors, en français, ça ne marche pas très bien. Ça fait corporé ou corporant. C'est un peu moche, quoi. Mais elle fait ça, d'ailleurs, au bout d'un... Elle commence avec le corps. Elle dit, ah, ben, il n'y a que des corps en train de se faire. Il n'y a pas de corps. Même là, ce truc-là qui a l'air d'être présent, en fait, il est déjà en train de se renouveler. Hein. Il est déjà... C'est une existence métabolique. Donc, c'est déjà une illusion que tu es en train de produire en disant ce corps. Mais non, ce corps en train de se faire. Ce corps qui est encore au futur. Oui. Et puis alors elle commence avec ça, puis au bout d'un moment elle se dit mais en fait tout et donc elle te rajoute des ing à tout ce qui bouge, c'est-à-dire tout. Donc il n'y a pas de world chez Erin Manning par exemple, il y a des worlding qui se traduit beaucoup mieux en français par mondoiement. Il se trouve que c'est un verbe qui existe en vieux français du Moyen-Âge, mondoyer. Et ça veut dire bouger comme le monde. C'est-à-dire, oui, cette vous voyez comme quand tu sors et il y a du vent et ça, et le monde tremble sur lui-même. Oui, ou tu sens le mondoiement, quoi. Enfin, je sais pas comment dire autrement. C'est voilà. Et du coup, elle propose voilà ce senti, se mettre en relation avec une sorte de prolifération gérondive du monde. Oui, le monde devient en puissance au lieu d'être en acte. C'est un truc qui m'est apparu, bon, pardon, c'est un détail, mais j'ai été étudiante, puis doctorante, puis finalement docteur à un moment. Et là, et c'était la catastrophe. Le moment de passage de doctorante à docteur, je me suis dit, merde, j'ai perdu mon gérondif. C'était la première fois que j'existais sans gérondif. Et alors, j'étais bien embêté, parce que c'était aussi un sentiment d'être, de perdre de la puissance, au sens de perdre de ce que je ne suis pas. Parce que tant que t'es doctorante, ça va. T'es encore en train de faire un truc. Mais alors, docteur, c'est fini, quoi. T'es censé être docte, quoi. Bref. Et c'est assez proche de ce qui... Là, en un sens très individuel et personnel, c'est assez proche de ce qui est évoqué. Et si tu pouvais être un corps en train de se faire? Et si tu pouvais être en relation avec toi, pas en saisissant les parties calcifiées? Et il y en a toujours. Voilà. On les aime. Bonjour, les parties calcifiées de moi-même. Mais en te mettant en relation avec la part processuelle en devenir de toi. Et chez Erin Manning, c'est hyper important pour des raisons aussi interpersonnelles ou interrelationnelles. Parce qu'elle en vient à dire, mais alors du coup, si tout est gérondif, la chose qui existe, ce qu'il y a dans le monde, ce qu'on appelle une ontologie, hein, l'ontologie, c'est la théorie de des types d'êtres qu'il y a dans le monde, quoi. Est-ce qu'il y a surtout des atomes? Est-ce qu'il y a surtout des êtres pensants? Oui. Est-ce qu'il y a surtout des âmes qui vivent, etc. Elle dit, ce qu'il y a, c'est des relations. Il n'y a pas d'être, il n'y a pas de substance, il n'y a pas des machins qui sont faits. Il y a d'abord des relations. Donc, typiquement, oui, je suis le produit de la relation qui est entre toi et moi. Je suis pas, c'est pas que je viens avec mes petites histoires, et puis toi tu viens avec tes petites histoires, puis on se rencontre, et puis ça crée une relation. Non, il y a une relation entre nous et nous en sommes le résultat. Ouais. Et bien sûr, il y a plein de moments où tu oublies ça, où tu viens avec ta carte d'identité, puis tu crois que tu sais qui tu es, puis tu présentes et tu délivres toutes les parts calcifiées de toi-même. Tu délivres toutes tes histoires en conserve, tu délivres toutes les choses qui sont déjà disponibles et prémâchées de toi. C'est OK, hein, c'est pas grave. Love your calcified parts. Mais à nouveau, il y a parfois certaines situations, et on peut dire les situations de danse font ça, on pourrait dire les situations d'amour font ça aussi, où tout d'un coup, ce que tu donnes à l'autre, c'est ce qui n'est pas encore toi. Ouais. Tu livres à l'autre des morceaux que tu n'es pas encore devenu. Salut, créature. Bon, je sais pas pourquoi. Je sais plus c'était quoi la question.
Mais... on s'en fiche complètement. Ça m'évoque. J'arrête pas de penser à ce film depuis que tu as commencé à parler. Il est extra présent. Et bien entendu, je retrouve pas le titre, sinon c'est pas drôle. C'est incroyable le film de science-fiction avec les mondes parallèles et la. Voilà. Et ben, ça, j'ai l'impression que ce film fait ce que tu décris un petit peu. Et alors, évidemment, avec les histoires des mouvements, ça m'évoquait. Alors, je vais pas spoiler le film, mais voyez-le si vous l'avez pas vu. Ce moment où, dans un des mondes parallèles, les deux personnages principaux, enfin, les personnages principales d'ailleurs, parce que c'est deux femmes, sont des cailloux. Voilà. Et se parlent en tant que cailloux, ce qui est quand même une scène assez merveilleuse. Voilà. Donc, ça me faisait penser à ça. Comme on était sur le sujet de l'amour aussi, j'avais un peu envie qu'on parle de ton programme de tendresse et de la manière dont tu imagines... Alors, bon, voilà, t'as répondu sur la question du corps. Il y a quand même un moment où tu... Alors, c'est vrai que je te fais pas beaucoup parler des exemples de danse, et en même temps, je trouve que c'est aussi pour ça qu'il faut lire le livre. Parce que... Pas trop, mais en fait, c'est un livre qui se lit un petit peu comme une fiction au final. Il y a un peu un mystère. Je crois que c'est parce qu'on peut dire waouh, un essai, ça ne se divulgage pas. Bah, si, un petit peu dans ton cas, je trouve. Bon, je referme cette parenthèse. Parlons des nouveaux trous des corps. Des trous. Non, les nouveaux trous et la tendresse. Non, je sais pas.
Ok, on parle des nouveaux trous. C'est drôle parce que juste avant de commencer cette conversation, tu me racontais que tu étais à un spectacle et que quelqu'un s'est mis à ramper vers toi et te dire « Est-ce que tu voudrais un massage d'oreille ?» Et comment bêtement t'as dit oui. Et tu t'es retrouvé à recevoir ce soin d'oreille. Il se trouve que la personne qui est sur la couverture de ce livre, Antonia Livingstone, est la personne qui a inventé cette pratique, proposé cette pratique qui s'appelle Erotics, érotique d'oreille, qui sont des soins offerts à ces deux petits vagins supplémentaires que nous avons toutes sur chaque côté de la tête et qui sont donc des petits organes à sentir qui ont pour particularité d'être très peu mobiles. Oui, c'est pas facile à mobiliser ces créatures-là, mais en même temps d'être hyper sensibles, oui, hyper perceptives, non pas seulement de manière auditive, mais aussi de manière tactile. Oui, hein, si vous... Donc, vous rassurez-vous, on va pas faire de massage d'oreille là maintenant, mais vous pouvez toujours le faire chez vous. Dans la proposition d'Antonia, il y a un protocole très particulier, très spécifique. Mais une des origines de cette pratique, c'est... alors, d'un côté, un texte fabuleux d'Audre Lorde qui s'appelle « Les usages de l'érotique ou l'érotique comme puissance », où Audre Lorde fait état de la capture de l'érotique dans le patriarcat, qui fait en sorte qu'il n'est autorisé d'avoir un sens érotique de soi que dans la chambre à coucher, hein, qui fait que avoir du plaisir et soupçonner d'être sinon criminel, du moins oisif, en tout cas inutile, et si bien qu'il devient difficile de dire je prends du plaisir à mon travail. Alors on te regarde, bon, c'est pas du travail. Oui. Bon, évidemment, travail, tripalium, oui, le truc que tout le monde connaît, c'est quand même bizarre. Le mot travail vient d'un instrument de torture, un pal, quoi, un truc sur lequel on est empalé. Donc évidemment, ça devient tout de suite soupçonneux d'avoir du plaisir à ça, même si, voilà, no shames in any kink. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Ah oui, donc ça vient de là, de l'idée de réaffirmer la tendresse, l'éros, comme une forme d'affirmation de soi, comme une forme de connaissance de soi. Voilà. Et puis l'autre provenance de cette pratique, là, d'investir les petits vagins supplémentaires sur chaque côté de la tête, c'est une idée, une spéculation du philosophe Paul B. Preciado dans le manuel manifeste contrasexuel, qui est une philosophie du godemiché, une philosophie du dildo, dont une des prémices est le dildo précède le pénis. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'idée, générale de ce texte, c'est de dire le patriarcat a capturé l'idée qu'on puisse se faire du plaisir les unes aux autres en ne parlant que d'un seul god parmi tous les gods, qui est le pénis. Qu'est-ce qui se passe si on revendique une dildotectonique, il dit, une capacité à produire des dildos partout, de ne pas limiter à un seul espace, mais de l'ouvrir à l'ensemble des choses avec lesquelles nous nous donnons du plaisir les unes aux autres, oui. Dont bien sûr les doigts, etc. L'autre grande idée du manifeste contraceptuel, c'est « nous sommes toutes des trous du cul ». Ça, c'est le truc, proposition universalisante, voilà. D'un certain point de vue, nous sommes toutes des trous du cul. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ça ? Qu'est-ce que ça nous raconte de ce dont on est capable quand on est en danse ? Eh bien, nous pouvons multiplier nos propres organes dans tous les sens. Nous pouvons être que des genoux. Alors, c'est peut-être pas très intéressant ni très joli, oui, mais nous pouvons être des corps plein de genoux. Nous pouvons être des corps plein d'yeux. Nous pouvons faire surgir des yeux au bout de nos mains, derrière notre dos, oui. Commencer à percevoir, à augmenter nos perceptions de cette manière, en simulant, en imaginant. Là, imaginez là toute derrière que vous avez des yeux derrière votre crâne. Qu'est-ce qui se voit derrière? Et bien que ce soit peut-être un peu flou dans votre expérience, vous sentez quelque chose. Oui, quelque chose se déploie d'une perception qui est disponible. Pourquoi c'est important de faire ça? une des idées générales de... Ah, pardon, je vais encore faire une parenthèse. Ça va? une des idées générales qui se cache derrière cette idée de dildotectonique, c'est l'idée de hacking. Oui, de hack, devenir les espions de nous-mêmes, devenir capable de nous auto-hacker. Oui. Ce mot-là, il vient de l'activisme informatique, etc. Mais il a été comme condensé par une penseuse australienne, Mackenzie Wark, dans un texte qui s'appelle « Le manifeste hacker ». Oui. L'idée de Mackenzie Wark, c'est de dire... nous vivons une nouvelle lutte des classes qui est en train de se superposer à la lutte des classes classique. Dans la lutte des classes classique, il y a des capitalistes qui ont accumulé des moyens de production et des prolétaires dont les forces sont extraites par ces capitalistes qui possèdent les moyens de production. Oui. Ça, c'est le truc classique, Marx, etc. Ça vaut pour une partie du monde dans lequel nous vivons, mais nous vivons une nouvelle ère du capitalisme qui est le capitalisme attentionnel. Oui, il y a toute une classe de gens qui sont intéressés pour capturer ton attention, qui développent des technologies qui s'assurent que tu vas passer du temps devant elles. Vous connaissez peut-être la phrase d'Étienne Moujotte, ancien président de TF1, qui disait « Mon travail, c'est revendre du temps de cerveau disponible ». Oui. Donc ça, c'est une classe très particulière de capitalistes. Ce n'est pas les mêmes, pas toujours les mêmes, mais c'est des gens qui possèdent les moyens de te dire où tu dois regarder, à quoi tu dois faire attention. Oui, qui te disent ce qui compte, c'est ce qui te rentre dans les yeux et dans les oreilles. Alors tout le reste, magnifique. Tout le reste, c'est ce qui te rentre dans les yeux et dans tout le reste que ce qui te rentre dans les yeux et dans les oreilles, élimine-le. Ouais, ouais. L'idée de Mackenzie, c'est de dire il y a une nouvelle lutte en route contre cette classe qui décide où tu regardes. Cette classe des vectorialistes, c'est eux qui te disent tu dois regarder par là, suis tes vecteurs. Et cette classe, c'est la classe des hackers, la classe de celles qui se sont intéressés à faire bifurquer l'attention ailleurs, à celles qui disent « apprends à t'espionner toi-même, t'apprendras à faire regarder les choses ailleurs ». Multiplier les trous d'oreilles sur les côtés, c'est une sorte de part micrologique, une sorte de petit détail de cette logique beaucoup plus large qu'est celle de « nous avons besoin de nous armer très sérieusement pour résister à la prédation de nos attentions ». Nous avons besoin de développer des techniques nouvelles pour percevoir autrement et ne pas céder aux technologies qui nous captent. Ouais. Parce que bon, voilà, tu peux lire Donna Haraway autant que tu veux avant de te coucher. Si le lendemain matin, c'est ton téléphone portable qui te réveille, bah, t'es foutu, hein, c'est reparti. Oui, c'est reparti pour un tour. Donc, comment tu t'aiguises à avoir d'autres pratiques relationnelles, hein? C'est un peu ça l'idée. La tendresse, c'est une des manières de faire exister ces autres pratiques relationnelles. Oui. Être tendre les unes envers les autres dans l'espace public, c'est une des manières de faire exister ces autres pratiques relationnelles.
J'avais une question qui revient un tout petit peu en arrière sur les histoires de trous du cul. Nous ne l'oublions pas. Voilà. En fait, ton texte est aussi... je disais qu'il fait ce qu'il dit. Donc, il est lui-même un compost de plein d'auteurices extraordinaires que tu colles ensemble. Ça, c'est très beau. Voilà, on croise plein de noms très différents. Pour ma part, j'ai particulièrement apprécié le fait de voir... Bah, peut-être des penseuses très actuelles. Alors voilà, par exemple, Donna Haraway, qui est extrêmement importante aujourd'hui. Mais tu reviens aussi avec Merleau-Ponty. Tu vois, moi, je n'avais pas lu Merleau-Ponty depuis mes années d'école. Donc ça, j'ai trouvé ça assez joli. Et puis, après, on ne peut pas tout mettre dans un livre, évidemment. Mais je m'attendais à tout moment à rencontrer Andrea Longchu. Et alors, du coup, alors, je vais peut-être contextualiser un tout petit peu pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Andrea Longchu, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Females, qui je crois est traduit maintenant, depuis peu, femelle. Mais d'ailleurs, ouais. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec cette traduction, mais ça c'est un autre problème. Mais en gros, son argument très condensé, c'est de dire on est tous des femelles et on déteste tous ça. Voilà. Ça explique en partie le sexisme, ça explique aussi peut-être les masculinités hégémoniques. Et c'est une invitation à se reconnecter à une forme de passivité ou de être sissi, voilà. Des sexualités non dominantes, peut-être non pénétratives. Bon, y a plein de choses dans ce bouquin qui est tout petit mais qui est super riche. Tout ça pour dire, je voulais savoir toi ce que t'en pensais, si tu l'avais lu. Et après, c'est toujours bizarre comme question, pourquoi il n'y a pas cette autrice? Bon, il n'y a pas la place, sinon le bouquin ferait 8000 pages. Mais c'était tellement proche. Voilà. Et cette histoire active-passive, si tu voulais nous en dire un mot, parce que j'avais l'impression que ça avait été assez fondateur dans ta pensée.
Alors je l'ai traduite, c'est pas moi qui ai traduit femelle, mais j'ai traduit un autre texte, donc c'est pas moi qui ai fait l'erreur horrible.
On a eu chaud.
Que tu désignes, mais j'ai traduit un de ces textes qui s'appelle Le rose et un joyeux nouveau vagin, qui est très beau sur les vous voyez la marche des femmes à l'élection de Donald Trump, où il y avait des histoires de bonnets roses. Où tout le monde s'est muni de bonnets roses et où il y a eu toute une sorte de... Oui, c'est des bonnets, oui, c'est ça, les pussy hats, exactement. Et du coup, il y avait tout un ensemble de débats sur « Ah oui, mais est-ce que ça ne serait pas transphobe ?» Parce que du coup, pussy, et puis il y a des femmes qui n'ont pas de pussy, alors c'est un problème, etc. Et puis, en plus, elles sont roses, alors quid des pussy qui ne sont pas roses, etc. etc. Et Andrea Longchu, qui est... une femme trans racisée répond à ces questions-là en se disant « Écoutez, moi, je ne me suis pas senti particulièrement exclu par ces bonnets roses. » Et ce qui pose ça posait plutôt la question, et elle en profite pour poser la question, c'est quoi le signifiant qui permet de relier le féminisme? Qu'est-ce qui nous rattache ensemble derrière le mot féminisme. Est-ce que, voilà. Alors, dans Femelle, elle dit des choses... Elle fait un peu le travail complètement de type Valérie Solanas. Vous voyez Valérie Solanas, c'est une militante un peu jusqu'au boutiste du féminisme des années 60-70, qui est fameuse pour avoir tiré sur Andy Warhol. Bon, mais c'est pas la chose la plus... Et qui se propose généralement de taillader, d'en finir avec le genre masculin. Elle sauve les PD. Et encore. et du coup, Andrea Longchu fait cette proposition un peu plus générale. Andrea Longchu, elle a la particularité d'écrire des trucs, pas parce qu'elle les pense, mais parce qu'elle dit « Écoutez, on peut les écrire. Et si on les écrit, ça va faire quelque chose. » Oui, si on... et en fait, Valérie Solanas, c'est exactement ça. Oui. Valérie Solanas, elle dit « On va trucider tous les hommes. » Je ne suis pas certaine que Valérie Solanas veuille trucider tous les hommes. y compris en gardant que les PD. Valérie Solanas écrit ça parce que si elle l'écrit, ça crée un effet dans le monde. Oui. Et du coup, elle joue sur la fonction véritative. Oui. Alors moi, je ne sais pas très bien faire ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop cité Andrea Longshu, parce que je n'ai aucune idée de ce qu'elle veut dire. Enfin, tu vois, je ne sais pas quelle est la fonction véritative qu'elle occupe là-dedans. Donc je me suis dit, oh, je ne vais pas me mêler de ça. c'était un peu la raison pour cette raison-là. Mais je crois, plus fondamentalement, et c'est ce que tu pointes, ce qui m'intéresse, je crois, le plus dans ce livre, c'est moins cette binarité homme-femme ou mâle-femelle qui est le cœur d'Andrea Longshu, qui dit, voilà, nous sommes toutes femelles. Et c'est plutôt revendiquer un point qui, disons, se tient au-dessus ou en dessous de cette binarité. Et on peut dire l'origine du bouquin serait, j'aurais peut-être dû commencer là-dessus. Mais c'est pas plus mal de finir aussi là-dessus. Et puis après, on peut peut-être avoir des questions, je ne sais pas si ça vous va. Ou alors avoir un long silence gênant. Voilà, préparez-vous. alors, il pourrait toujours y avoir un grand bâillement. donc oui, l'origine du bouquin, la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin, c'est une découverte, c'est pas moi qui ai produit cette découverte, mais je suis tombé par accident sur un texte qui fait un état d'un point de grammaire grec et sanskrit. Voilà. Donc évidemment, je n'ai pas commencé par là parce que ce n'est pas le truc le plus bandant à compter. Mais c'est quand même, pour moi, le truc le plus incroyable qui me soit jamais arrivé de lire. C'est un texte de Émile Benveniste, qui est un linguiste franco-libanais, qui s'appelle « Actif et moyen dans le verbe ». Le point de départ de l'article, c'est « En français et dans la plupart des langues indo-européennes, il existe deux types de diathèse, c'est-à-dire de mode pour les verbes. Soit ils sont à la voix active, soit ils sont à la voix passive. Oui. Tous les verbes peuvent être soit à l'actif, toucher, porter, soit au passif, être touché, être porté. Oui. Tu ne peux pas être et l'un et l'autre. Tu ne peux pas toucher et être touché. Tu es nécessairement soit l'un, soit l'autre. Ce qui, soit dit en passant, est exactement le truc que dit Merleau-Ponty. Le problème du toucher, c'est qu'on a l'impression que les deux choses se passent en même temps, mais on n'arrive pas à le sentir. C'est-à-dire, tu touches, et tu sens que c'est toi qui le fais, puis alors après, tu essayes de sentir que tu es touché en même temps, et là, ça s'arrête, tu n'arrives plus à toucher. Et donc, il y a une espèce d'imminence, tu sens que tu pourrais être touché, mais tu n'y arrives pas. Ça ne rentre pas dans ta conscience. Oui, c'est ce qu'il appelle l'imminence du chiasme, ce que je trouve très joli. Oui, c'est l'imminence du moment où ça va être la même chose, mais non, ça ne vient pas. Et tu peux le sentir sous tes fesses, avec la chaise, si tu veux, ou avec tu touches le sol, ou tu es touché par le sol. Et tu vois, hein, comment ça crée des petits états différents de ta posture, non? Alors, tout le monde est là. Alors, donc, il y a, de manière structurante dans les grammaires indo-européennes, une binarité entre l'actif et le passif. C'est soit l'un, soit l'autre. Et on voit comment cette binarité entre l'actif et le passif est pas seulement un truc grammatical, mais organise socialement la distribution de nos rôles, et spécifiquement de genre, mais pas seulement. Oui. L'actif et le passif, ça décrit qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce que tu es censé faire dans le monde. Alors, pourquoi je raconte ça? Eh bien, parce qu'il se trouve que dans un certain nombre de langues anciennes, en particulier le grec, le latin et le sanskrit, il y a une alternative, qu'on appelle la voix ou la diathèse moyenne. Et le moyen désigne tout un ensemble de verbes qui, justement, se tiennent en dehors de la binarité de l'actif et du passif. Il y a des verbes qui sont à l'actif, il y a des verbes qui sont au passif, mais il y a aussi des verbes dont on ne peut pas décider à l'avance comment ils sont coupés entre l'actif et le passif. Alors typiquement, en grec, haptomai, le verbe pour dire toucher, ça se dit au moyen. Parce que on peut un peu expliquer, pour la conscience grecque, quoi, toucher et être touché, ça ne fait pas alternative. On n'y arrive pas. On ne peut pas toucher sans être touché. Oui. Alors eux, ils ont de la chance parce qu'ils ont un verbe pour le dire. Oui, donc ils peuvent le... ils peuvent, ça peut être une évidence. Et ils ont un, c'est intéressant parce que ce verbe haptomai, il peut se dire à l'actif. Oui, comme nous, on pourrait faire passer un verbe qui est au passif, être touché, à l'actif, touché. Tu dis hapto, et c'est à l'actif. Mais là, ça veut dire faire des marionnettes. Ouais. Et pourquoi, hein? Parce que elle touche pour toi. Ouais. Ça va, c'est clair comme. Ou alors faire un nœud, par exemple, hapto. Peut l'utiliser pour dire faire un nœud. Pourquoi ? Parce que quand tu fais un nœud, tu fais que des choses se touchent, mais toi, tu n'es pas touché. Alors bien sûr, au moment où tu fais le nœud, tu es touché, bien sûr, c'est des détails, mais vous comprenez un peu l'image. Alors il y a plein de verbes qui se disent de cette manière. Naître, par exemple, le verbe naître, ça va se dire au moyen, nascor en latin. Pourquoi ? Eh bien parce que, évidemment, en un sens, personne d'autre que toi peut naître à ta place. Donc, c'est bien toi qui es, en un sens, le sujet à l'actif de ta naissance, je nais. Mais en même temps, bien sûr, c'est pas toi qui fais la naissance. Tu es plutôt l'objet de la naissance, tu es au bout de la naissance. Donc, tu nais et es né. Et il y a une sorte tout est ramassé en un seul geste. Et ce qui a fait que le bouquin est venu, c'est que je me suis rendu compte, et ça, Benveniste n'en parle pas, qu'un des verbes en grec pour dire danser, orkeomai, se dit justement au moyen. Danser, pour la conscience grecque ou pour certains détails de la conscience grecque, danser, c'est inséparablement danser, être dansé. Et ça, vous l'avez probablement toutes vécu déjà, en entrant en boîte de nuit ou dans une soirée dansante, quoi. C'est le début de la danse. Alors là, t'es vraiment à l'actif. Hein. Allez, hein, on va y aller, on y croit. Alors on remue, quoi. Et clairement, ça marche pas. Hein. C'est pas en train de se passer, mais on pourrait dire c'est le moment de la prière. Ouais. Hein, c'est le moment où tu commences à faire les gestes pour faire advenir la divinité, mais elle n'est pas encore arrivée. Hein. Donc voilà, t'es un peu gêné, etc. Phénoménologiquement, je saurais pas comment l'expliquer, mais par contre, je peux le décrire. Il y a un moment qui fait pivot et où tu commences à être dansé. Mais ce moment pivot, ce n'est pas un moment où tu deviens juste passive avec la musique, etc. Tu es toujours en train de danser, tu es toujours en train de le faire. Simplement, ce faire se mêle d'être fait. Oui, c'est un faire qui se tient en dehors de la binarité entre l'actif et le passif. C'est une dansée, on pourrait dire. Oui. Et donc, ce moment-là précis de l'orchéomai, de danser, être dansé, on pourrait dire c'est ce que le mot mouvementement, qui fait le titre du bouquin, veut rendre compte. Je voulais mettre mouvement, puis je voulais dire bougeant, bouger, être bougé. Bon, comme je m'appelle Bigé, ça marchait pas très bien. Enfin, ça faisait un peu trop. Et puis finalement, je me suis dit, il n'y a qu'à foutre un néologisme et qui parle du mouvementé. Parce que ce que je voulais dire, c'est se tenir en dehors de la binarité du mouvoir et de l'être mu. Oui, être dans ce moment où tu es emporté. Et ça, je veux dire, spoiler massif, c'est la conclusion, pardon. Hein. Et ça, ça me conduit à réfléchir à quoi ça ressemble une politique gestuelle qui met au centre, non pas l'actif, mais le moyen. Oui. On parle d'activisme, et c'est super l'activisme, mais à quoi ça ressemblerait un ensemble de gestes qui serait un moyennisme. Bon, évidemment, ça ne marche pas du tout, ce n'est pas du tout une intervention lexicale. Et en réalité, ce moyennisme, il existe. Enfin, je veux dire, et on peut dire que le XXe siècle est rempli des activismes qui se font non pas à travers des actions, oui, avec des sujets érectiles, mais plutôt à travers de gestes qui ont pour effet la contamination. Je vais les nommer, vous allez tout de suite comprendre. Les sit-in, les die-in, les kiss-in, oui, les sleep-in, les sweep-in, il y a même eu. Bref, tous ces ensembles d'actions, c'est un des premiers gestes des activismes trans, figure-toi. Sit-in... mouvement africain-américain, tu t'assois là où tu n'es pas censé t'asseoir. À l'avant d'un bus plutôt qu'à l'arrière, devant un diner, où tu n'es pas censé être là. Die-in, les actions, notamment de l'activisme sida, où tu te couvres de blouse et tu te mets du sang pour signaler la violence et la brutalité des laboratoires pharmaceutiques. Oui. Sweep in, tu balais les rues, comme c'est le cas des militantes de Vanguard en 1966, qui, face à la brutalité policière, qui fait des sweeps, c'est-à-dire des balayages des rues pour supprimer la... la racaille, c'est eux qui ne sont pas censés y être, renversent l'image du balayage et disent ben, « nous allons prendre soin de nos rues, balayer les ordures que les capitalistes jettent et nos clientes, beaucoup, parce que c'était beaucoup des TDS, des travailleuses du sexe. » Tout un ensemble de gestes qui donc ne ressemblent pas à une action au sens de... Oui, une percée érectile dans l'espace public, mais plutôt des gestes qui invitent à être joints, oui, qui contaminent, pas sous la forme de « allez, on y va !» mais sous la forme de « eh ben, si je me mets à m'allonger par terre, il y aura peut-être d'autres gens qui vont se joindre. » Oui, et tous ces verbes, en fait, sont plus ou moins des verbes qui peuvent se dire au moyen. Oui, s'asseoir, s'allonger, s'embrasser, je ne sais pas, balayer, je n'ai pas regardé, mais je ne sais pas comment en grec ils disent balayer. Mais voyez en tout cas qu'on peut sentir ce caractère de réciprocité qui est en jeu dans ces activités. Et du coup, je pense qu'il y a là une puissance politique, disons, sous-nommée dans ces gestes qui ne répondent pas à l'image de l'action, mais qui pour autant... ont été parmi les plus grands mouvements de ce qui a changé le monde au XXe siècle et qui ont contaminé les consciences collectives. Yay. Alors, oh merde, il est super tard.
Où sont nos amis les libraires? On est en roue libre ou... Que se passe-t-il? Ils sont partis, peut-être.
Voilà,
non,
c'est bien. Ben, on reste ici et on fait la...
La question, c'est est-ce qu'on passe aux questions ou est-ce que vous voulez encore que je dise des trucs ou... Que se passe-t-il?
Est-ce qu'il y a des questions brûlantes qui voudraient être... Alors, bien sûr, cassez-vous. Alors, je sais que c'est pas... Si vous voulez... Je veux dire, si vous avez besoin de partir, n'hésitez pas. Non, pas cassez-vous. Si vous avez besoin de partir, n'hésitez pas. Mais est-ce qu'on prend un petit temps pour un silence gênant? Et ça va? C'est OK pour la librairie ou pas? Ouais, OK. Merci. Alors, vous n'êtes pas obligé de maintenir le silence gênant très longtemps. Un silence gênant et ou une question? Oh putain, gâché en 2 secondes. Ah, comme calcaire. Ouais, comme caillouté, comme devenu caillou. Ou que pétrifié. Ouais. Je vais citer Lacan. Non, mais des fois, par accident, même les types les plus dégueulasses disent des choses très belles. Et je pense qu'on peut leur voler leurs phrases. Et en plus... Contrairement à eux, on va citer nos sources, quoi, y compris. Oui. Bref. Donc, pardon, mais donc en volant à Lacan ce qui lui appartient pas. Il dit un truc. Il a cette définition de l'amour, c'est aimer, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Oui. Alors Lacan, évidemment, comme il a que ça en tête, il pense au phallus quand il dit ça. Parce que c'est l'obsession de Lacan, comme c'est bien connu. Donc on s'en fout de Lacan. Aimer, c'est donner quelque chose que tu n'as pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est magnifique cette phrase, parce que qu'est-ce que tu peux donner que tu n'as pas? C'est quoi la seule chose que tu pourrais donner? Il n'y a que toi qui peux le donner, et en plus, tu ne l'as pas. Eh bien, c'est la chose que tu n'es pas. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes quand tu aimes? Tu donnes ce que tu n'es pas encore. Tu donnes la part de toi, pas calcifiée, pas pétrifiée. Le truc qui, en toi, n'est pas encore devenu. Un morceau de toi qui reste une promesse. aimer, c'est donner quelque chose qui n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, et l'autre, elle veut pas. Pourquoi elle en veut pas? Pas parce que c'est dégueulasse, le potentiel. Elle en veut pas parce que si elle peut même pas l'imaginer, ce que tu vas lui donner. Donc elle en veut pas parce qu'elle l'imagine pas, elle peut pas penser que ça va lui arriver, ça va t'arriver. Oui. Aimer, c'est donner quelque chose que tu n'as pas à quelqu'un qui n'en veut pas, parce que l'échange amoureux, il est fondé sur ce don mutuel incroyable que nous nous faisons des potentiels, oui, des puissances qui sont encore en nous sans nous. Oui. Bon, c'est ça qui avait derrière calcifié. Lacan se cachait pas loin. Ah ben ça je sais pas. Peut-être à Dieu. Ah.
J'allais dire Jésus.
Peut-être à Dieu Tim. C'est pas parce que il le dit. Enfin, en tout cas, qui est la seule meuf de tout Platon. Dans toute l'œuvre massive de Platon où il y a que des mecs qui papotent avec entre eux. Il y a un moment. Alors elle parle pas par elle-même. Hein, faut quand même pas déconner. Mais à un moment, Socrate se dit ah. Je me rappelle d'un truc super qu'une meuf m'a dit un jour. Et c'est dans le banquet. Et c'est... salut. Et c'est salut. Et c'est à propos du... C'est à propos du banquet. Et donc de Diotime. Et donc du seul discours de meuf dans tout Platon que Lacan dit cette phrase. Donc voilà. Il l'a volé à une meuf. Alors, futur, c'est aussi un participe futur. Ce qui est marrant. Ben oui, comme nature, comme créature, comme posture. Futur, c'est ce qui reste à faire. Oui, facere. Enfin, voilà. Et pas futon. Enfin, non, bref. Donc, futur. 20h30. Futur. Et donc, quand tu te donnes des futurs... Salut, futur. Ce que tu te donnes, c'est ce qui reste à faire entre nous. Donc ouais, ça c'est le cadeau, quoi.
C'est super. Ah mais moi j'adore les silences gênants, donc je peux le maintenir. On peut rester là pendant quoi un moment.
Merci.
Ben, merci.
Merci. Merci beaucoup. Ah non, non, mais c'est là.
J'essaie de...
Non, mais en fait, si on maintient le silence suffisamment longtemps, ça peut redémarrer. Mais oui. Si on ne le maintient pas, c'est OK et on finit la soirée. Et moi, ça me va très bien. Est-ce qu'on a des limites particulières ? D'ici 20 minutes ? Ah oui, c'est ça. Alors, dans 20 minutes, il n'est plus payé, donc je pense qu'on peut se dire au revoir. Comme ça, il a le temps de vendre les bouquins s'il y a besoin. Je voulais juste faire un placement de produit. Il y a un livre incroyable de Saul Pandelakis. Du coup, voilà, pardon. Qui s'appelle La séquence Hartmann, dont je suis tombée follement amoureuse. Et il y a une scène incroyable. Je la spoil, mais elle est au milieu, donc ça va. Il y a une scène incroyable où les personnages sont des bots, des robots humanoïdes, oui, qui sont dans un club de danse. Elles sont en train de danser. Il y a un mélange entre des humaines et des bots. Et à un moment... Peut-être je vais mal le raconter. Une bot, propose une danse aux autres bots. Et la manière dont elle la propose, c'est sous la forme d'un programme que chacune peut absorber immédiatement et qui va leur donner une danse à faire. Elles sont 150, 200 dans la boîte et elles vont toutes instantanément apprendre cette danse extrêmement complexe et devenir capables de la danser ensemble. Et la beauté de cette scène incroyable, qui commence donc avec ces bots qui se mettent à faire des mouvements collectivement, en unisson, etc., c'est que la richesse de cette chorégraphie qui est inventée, c'est qu'à tout moment, il y a des petites boucles qui te permettent de sortir de la danse collective, de la même danse, l'identique, pour faire autre chose, commencer à improviser, respirer l'odeur des autres, commencer à faire ta petite histoire. Et puis soudain, tu peux revenir dans la vague et rejoindre des mouvements qui sont en toi, mais sans toi, que tu ne peux même pas prévoir, parce que c'est des lignes de code qui ont été écrites et qui sont en train de se dérouler devant toi. Ce moment-là, rien que pour ce moment-là, mais c'est un livre de 600 pages qui est hyper riche dans plein de manières, rien que pour ce moment-là, ce livre, pour moi, est un des plus beaux textes sur la danse qui a été écrit. Donc, voilà, lisez-le. Ça fait un double achat. Non, achetez mon bouquin, pas le sien. Non, je voulais dire l'inverse. Achetez le livre de Saul Pandelakis. Et le mien peut être écouté gratuitement sur Spotify. Voilà. Si jamais vous n'avez pas les moyens d'acheter le bouquin, alors ce n'est pas de la très bonne promotion pour la librairie, mais on s'en fout un peu. Soit sur SoundCloud, soit sur Spotify, vous pouvez l'entendre. Alors c'est ma voix, donc voilà, si vous n'avez pas été trop saoulé par ce soir, vous pouvez toujours accéder gratuitement au bouquin qui a été shippé ainsi à mon éditeur. Merci beaucoup pour votre attention.
Bonsoir à toutes et tous.
Bonsoir tout le monde, merci d'être là.
Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Merci d'être venus ce soir.
Malgré la pluie, les vacances, on est vraiment content que vous soyez là.
Radio Livre, retransmission de rencontres avec les auteuristes à la librairie Terra Nova. Radio Livre, le jeudi matin de 8h à 10h. 92.2 sur Canal Sud.